manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi!
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme! Au secours!
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Cosy.
Bonjour chers amis, bienvenue dans Restons Courtois. Je dois vous avouer la plus énorme bévue dont je suis capable à l'antenne. C'est que j'ai tout simplement donné rendez-vous à l'intégralité de mes invités à la même heure, c'est-à-dire dans une heure. Voilà, donc ils sont en train de se dépêcher, ils sont en train de bouleverser leurs habitudes, ils sont en train d'essayer de renvoyer les babysitters, ils sont en train de courir dans Paris, ils sont en train de se connecter depuis la Suisse, ils vont finir par arriver. Mais évidemment, au début, ce sera un dialogue avec Marie-Charlotte du Bourblanc.
Bonjour Richard.
Voilà, que j'ai saisi à brûle-pourpoint il y a 5 minutes en lui disant « Chère Marie-Charlotte, étant donné que j'ai commis une énorme bévue et qu'aucune bévue n'est capable d'être aussi énorme, sinon carrément me tromper de jour, mais là j'y suis pas encore arrivé, nous allons parler ensemble, évidemment, quoi de mieux pour parler que de parler d'actualité, et nous allons évidemment parler de l'affaire Liana. Dans cette affaire Liana, bien sûr, tout à l'heure, nous allons parler de religion catholique. Tout à l'heure, nous parlerons avec Mathieu Lavagna des Évangiles, disent-ils vrai. Nous parlerons avec Xavier Maistre de ses éditions. Nous parlerons avec Christophe Dickès du Christianisme, une religion d'historien. Autrement dit, rassurez-vous, vous aurez droit à des vrais intellos et pas à du blabla d'éditorialistes en mal d'invités. Mais pour commencer, voilà, nous allons parler de l'affaire Liana. Et pour en parler... En fait, j'aimerais choisir un axe un peu différent de celui qu'on entend tout le temps, qui est le fait que forcément la justice est coupable, que forcément la justice fait n'importe quoi. Il est vrai que la procureure d'Auch, Madame Meyer, a le désagréable... habitus de traîner en justice les agriculteurs de la coordination rurale en leur reprochant le fait de manifester plutôt que de s'occuper des pédophiles potentiels qui sont en train de zoner dans son quartier. Là, on peut effectivement considérer que le procureur d'Auch a manqué de jugement. On peut considérer aussi que le procureur d'Auch a sans doute respecté aussi une des consignes données par Gérald Darmanin et par Laurent Nunez, qui est de traquer les opposants à Macron, car le crime de lèse-macronie est pire qu'à peu près tous les autres crimes selon le code pénal non écrit de l'extrême-centre. Mais on peut aussi considérer qu'en fait, la justice a raison quand elle dénonce le manque de moyens. On peut considérer que la justice a raison quand elle dénonce les circulaires innombrables dont... Gérald Darmanin les a abreuvés, et notamment cette toute première circulaire du 27 janvier 2025, où Gérald Darmanin détermine un nombre de priorités assez considérable. Je voudrais essayer d'abord de retrouver le document où Gérald Darmanin nous explique à quel point il est malin et à quel point il compte sur la justice, à quel point il sait que la justice va forcément l'aider et être de son côté. C'est une lettre tout à fait surprenante. Voilà, le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, à mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, mesdames et messieurs les procureurs de la République près des tribunaux judiciaires. Et donc, voici le camarade Darmanin qui fixe une première priorité d'action, la lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic. Et puis, il cite une deuxième, après deux pages de commentaires sur la manière dont il faut fixer cette priorité d'action, il en fixe une seconde, les violences faites aux personnes. Alors, et il ajoute, de nombreuses actions ont été menées ces dernières années pour mieux lutter contre les violences, notamment intrafamiliales. Je mesure pleinement l'investissement qui est le vôtre en ces domaines. C'est-à-dire que quand le garde des Sceaux prend ses fonctions, évidemment, il explique à ceux qui sont en charge de répercuter ces instructions à quel point il les trouve géniaux. La protection que nous devons à nos concitoyens dans l'espace public et au sein de leur foyer nous oblige néanmoins à une implication, une réactivité toujours plus importante. Et à ce moment-là commence la liste des courses de Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui succède à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dont on sait à quel point il a été raisonnablement inefficace. Alors, et quelles sont les priorités que fixe Darmanin ? Les violences faites aux femmes, les faits commis au préjudice des enfants, on reviendra sur cette formulation absolument baroque, les actes antisémites, antichrétiens et antimusulmans, les faits d'apologie du terrorisme, de provocation directe à des actes de terrorisme, la radicalisation violente ou le séparatisme, les faits dénoncés par l'éducation nationale concernant les personnels, les faits commis en raison de l'orientation sexuelle, les violences commises contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, contre les élus, contre les magistrats, fonctionnaires et contractuels du ministère de la Justice, les enseignants et les personnels de santé. Voici, en janvier 2025, les priorités que fixe Gérald Darmanin. Autrement dit, tout sauf le cambriolage. Voilà.
C'est assez intéressant cette liste parce que, en réalité, ça, c'est encore une liste de courses, comme vous dites, qui ne sera pas remplie. Ça fait des mois, des années que... on demande à ce qu'il y ait davantage de protection pour les femmes faites, concernant les violences faites aux femmes. Il y a toutes les semaines, tous les mois, très régulièrement, des actes antichrétiens qui sont commis. Ça fait des années que tout ça, ça existe. De manière générale, le gouvernement, la République, ne tient pas ses promesses. C'est des mots toujours... des paroles lancées comme ça. Cette année, ce sera la grande année de... voilà. Le grand combat politique sera cette année, par exemple, l'autisme. Je me souviens, il y a quelques années, ça devait être la question de l'endométriose. Mais je vous parle de ça.
Il y a une grande cause nationale chaque année. Et chaque année, ça change.
Mais voilà. Et on en voit jamais un aboutissement, jamais un projet, jamais... voilà. Il y a des petites structures qui travaillent. Je vous donne l'exemple de l'endométriose parce que je me souviens que c'était la grande cause nationale il y a quelques années et mine de rien, l'endométriose se recoupe avec, d'une certaine manière, les violences faites aux femmes parce que c'est une forme de violence médicale, dirons-nous. Seuls les hôpitaux, seuls les structures, seuls les médecins se penchent dessus. Le gouvernement nous annonce au 10 janvier, cette année, ce sera tel grand combat, tel grand chantier. Au 31 décembre de la même année, il n'y a aucune évolution, aucun avancement, aucune annonce officielle de fait. Et comme vous dites, l'année suivante, on a un nouveau combat. Cette liste de courses, elle résume grosso modo les grandes causes nationales de ces 15 dernières années.
Voilà. Alors, elle la résume et en même temps, évidemment, Gérald Darmanin dit « Vous devrez veiller plus que jamais à la rapidité et l'effectivité des réponses pénales apportées, la certitude de la sanction et son exécution, qui n'est pas forcément l'enfermement carcéral, étant un levier de prévention de la délinquance. » J'adore ces injonctions contradictoires où il explique, en gros, « Vous devez faire... » parce que, et ça se termine en expliquant « Et surtout, faites savoir ce que vous faites. » faites savoir ce que vous faites. La justice n'ayant de sens que lorsqu'elle est intelligible et comprise, je vous demande d'intensifier largement vos efforts en matière de communication. Voilà, on demande en fait aux juges qui sont surchargés de travail, tout le monde a glosé depuis que jour sur le nombre de juges en France rapporté à 100 000 habitants. C'est l'un des plus faibles en Europe. Tout le monde a glosé sur tout un tas d'autres indicateurs de performance de la justice où on se retrouve en fait avec un personnel de justice numériquement inférieur à la moyenne européenne et même on est parfois en queue de peloton. Il est temps de rappeler aussi que le gouvernement auquel appartient Gérald Darmanin a décidé de sabrer dans les comptes de la justice, qui sont pourtant un des plus petits budgets. Gérald Darmanin fait semblant de le découvrir et de chouiner. Mais voilà, il était un gouvernement qui aurait pu décider d'augmenter. Non, non, on vient de supprimer 400 millions, par exemple, à la pénitentiaire, alors qu'il y a encore des 10 000 places de prison qui sont à construire. Évidemment, en supprimant 400 millions d'euros de budget, on voit mal comment les prisons vont pouvoir fleurir. Mais Darmanin demande qu'on communique. Alors, et cette communication est absolument stupéfiante, puisque d'un côté, Darmanin dit, voilà, je vous donne des priorités, en voici une tête à chier, et vous êtes évidemment censé être redoutablement efficace sur toutes ces priorités, au point, bien sûr, que Darmanin explique, comme je vous ai donné des directives en janvier 2025, évidemment, je suis couvert, je vous avais dit qu'il fallait que vous alliez vite. Mais ça ne signifie pas qu'il l'a fait. Et l'USM, donc je ne suis pas suspect, a priori, d'appartenir à l'Union syndicale des magistrats, lui répond quelque chose d'assez pertinent. Vous avez pris 64 circulaires en 2025 et 50 en 2026. 114 circulaires en même pas un an et demi. Voilà. Et donc 114 circulaires pour encadrer le travail des procureurs, des juges d'instruction, etc.
Oui, il y a... à chaque fois, ces données chiffrées, cette paperasse administrative, ça me rappelle une série humoristique qui s'appelle Au service de la France, qui était diffusée sur Arte il y a quelques années. C'est sur les services secrets français des années 60. C'est un doux mélange d'OSS 117 et de James Bond à la française. Et en fait, dans cette série, plus que les agents sur le terrain, on suit l'administration. Et les services administratifs passent leur temps à remplir et à tamponner des fichiers, valider, tamponner, double tamponner, payer, facturer, enfin tout ça. Et c'est vraiment c'est un des fils conducteurs de cette série. Ben, j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. On a besoin en permanence de justifier, de tamponner, double tamponner des avis. Et le gouvernement fait sa communication là-dessus. En fait, c'est ce côté de « je rends compte ». Dans les faits, allez, hop, on a sorti trois papiers, on a validé, c'est bon, c'est réglé, je communique là-dessus et on passe à autre chose. En fait, ça arrange complètement le gouvernement, parce qu'encore une fois, cette communication, on lui fait dire ce qu'on veut derrière.
Absolument, on lui fait dire ce qu'on veut derrière, sauf que là, les Français n'achètent pas ça. On voit les Français, ni les juges. Le juge, évidemment, lui dit... La circulaire n'est-elle pas ainsi devenue un outil de communication politique plus qu'un levier d'amélioration du fonctionnement de la justice, ce qui, quand tout est prioritaire, plus rien ne peut l'être.
Mais exactement. En fait, c'est le problème, c'est que beaucoup de choses en France devraient être prioritaires, mais on nie toujours le problème à la source, et donc on va noyer ça sous un tas d'administrations, de mille feuilles administratives, et encore une fois, on communique dessus. Alors, depuis quelques années déjà, hein, c'est cette volonté. On le voit, hein, toutes les personnalités politiques sont présentes sur les réseaux sociaux, ont besoin de travailler davantage leur image, donc davantage la forme que le fond. Et même si cela a été intéressant il y a quelques années, et ça reste très intéressant, hein, comprendre une communication d'image, une politique d'image, c'est fascinant, c'est passionnant, mais ça n'est pas la réalité des Français. Et ce n'est plus ce que les Français veulent, justement. Il y a un trop-plein depuis des années, on le voit, et les Français ne sont plus dupes. Pour autant, il y a toujours cette lueur d'espoir, on va dire, qui arrive les semaines qui précèdent les élections, présidentielles notamment. Et puis finalement, j'ai envie de dire, on repart comme en 40. C'est toujours la même chose. Il y a cet enchaînement d'alternance... on fait, on défait, on refait, mais en fait, rien ne change.
Rien ne change, et surtout pas Gérald Darmanin, rappelons qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il est responsable de deux ou trois fiascos, comme le meurtre de Lola avec par une OQTF non exécutée, ou le pillage des touristes aux abords du Stade de France par des racailles qui, évidemment, ont été désignés comme étant des supporters anglais, ou d'une manière générale, toutes les émeutes qui ont eu lieu. Et d'ailleurs, Laurent Nunez prend la succession de Gérald Darmanin avec le même brio, c'est-à-dire en expliquant que tout s'est très bien déroulé comme il l'avait entendu, puisqu'il n'y a eu que 800 interpellations et que 1000 voitures brûlées, et que c'était à peu près ce que son ministère avait estimé. Et donc, se félicitant de la qualité du maintien d'ordre en France. On est stupéfait par l'opération de communication. Je voudrais revenir sur un autre chiffre, car vous avez raison, en fait. Il ne faut pas être absorbé par l'image numérique des circulaires. 114 circulaires à absorber, c'est-à-dire à peu près une par semaine.
Une par semaine.
Bon, il est évident qu'il y avait peu de chances qu'elles soient toutes exécutées, mais voilà, ça permet à Gérald Darmanin de s'abriter derrière une muraille de papier. Il a aussi expliqué qu'il y avait 70 000 dossiers qui représentent l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants et qu'elles devaient être examinées d'ici le 14 juillet. Et je me dis, mais ce type, ce garde des Sceaux, sait qu'il y a 70 000 plaintes qui concernent des plaintes qui touchent les enfants. Avec l'affaire Liana, il a l'air de découvrir ces 70 000 plaintes. Ces 70 000 plaintes, elles préexistaient à l'affaire Liana. En fait, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sait parfaitement le nombre de plaintes, de dizaines de milliers de plaintes dans toutes les catégories possibles et imaginables qui sont en souffrance dans tous les tribunaux. Et il décide d'un coup d'un seul qu'en un mois et demi, ces 70 000 plaintes vont être traitées. En fait, l'horreur de cette affaire Liana, c'est de se rendre compte que après toutes les affaires de pédophilie qu'on a connues, après toutes les affaires d'assassinat, y compris de jeunes enfants qu'on a connues, mais d'adolescents, d'adultes, etc. Donc, Eh bien, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, en fait, est assis sur les statistiques et n'en fait rien tant qu'il n'y a pas un fait divers qui menace sa position de ministre actif, suractif et dévoué aux Français. C'est 70 000 plaintes, eh bien, il y en a 69 999, si j'enlève la plainte, ou 69 997, si on enlève les plaintes qui concernent Jérôme Barella, eh bien, dont le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a décidé de se foutre pendant des mois et des années.
C'est intéressant parce que vous avez utilisé le terme de fait divers. En fait, je pense qu'on a vraiment basculé dans une société où, effectivement, le drame atroce de cette petite Liana est un fait divers. Et c'est un fait divers parce que, malheureusement, ça va se reproduire.
Parce que ça s'est déjà produit, surtout.
Ça s'est déjà produit, évidemment. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de la petite Lola avec cette OQTF non exécutée. En fait, aujourd'hui, nos enfants deviennent des prénoms sur des banderoles. C'est la réalité de ce que nous vivons en France. L'État a toujours voulu avoir la mainmise sur tout, en permanence. Et pour autant, ils sont incapables de protéger nos enfants. Ça, c'est une réalité. Et le drame atroce qui s'est passé pour la petite Liana non seulement ne se reproduira, mais en plus, le gouvernement ne bougera pas. Si M. Darmanin s'imagine avoir le temps d'ici mi-juillet de traiter autant de dossiers, alors que, prenons l'exemple du périscolaire, dont on a entendu parler, dont on entend parler depuis quelques mois, mais avec ce reportage qui est sorti fin janvier de mémoire, début février, ça faisait un an que ce documentaire était dans les tuyaux. Donc ça fait un an qu'en fait, en réalité, on a des personnes qui auraient pu dénoncer ça. Mais les gens attendent, les gens aiment le sensationnel, en fait. Ils aiment le... Je ne généralise pas derrière tout ça, mais il y a une partie des dirigeants qui aiment le sensationnel et, comme vous dites, qui vont s'en saisir au moment où leur petit siège confortable est menacé. Mais la petite Liana... Alors, moi, j'ai trouvé une chose très belle hier, c'est que beaucoup de gens se sont mobilisés partout en France. Devant,
oui, 200 manifestations dans toute la France.
200 manifestations. Mais... ça rejoint ce que je vous disais, on voyait le prénom de cette petite fille partout, mais cette petite fille, on n'aurait jamais dû connaître son prénom de cette manière-là. On aurait dû connaître son prénom parce que elle aurait été peut-être reçue avec mention au brevet des collèges dans quelques années, elle aurait peut-être pu faire de grands exploits sportifs si elle faisait des activités sportives là où elle était. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de cette manière-là qu'en France, nous devrions, en France et de manière générale d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, que nous devrions connaître le prénom de nos enfants. Et ça, j'ai vraiment le sentiment que le gouvernement s'en moque éperdument.
Alors, le gouvernement s'en moque éperdument, et donc, une fois de plus, c'est-à-dire de voir que Gérald Darmanin rend coupable les juges, les procureurs et tout l'appareil judiciaire, y compris les greffiers, en expliquant que, à la suite évidemment d'Emmanuel Macron, qui un jour nous explique que la séparation du pouvoir est une chose sacrée et le lendemain prend véritablement position contre le pouvoir judiciaire, à juste titre pour une fois, il y a donc effectivement en France quelque chose d'absolument terrible, c'est cette manière dont l'État a décidé d'abandonner nos enfants. Je voudrais citer, juste avant que Xavier Mestre ne nous rejoigne, un dernier petit fait que je trouve remarquable, qui a été relevé par Elisabeth Louvel, de la directrice générale de l'Observatoire des décisions de justice. À Toulon, Malik Chetioui, Chouyab Chetioui et Salim Feki ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour le vol de singes Saïmari, espèce protégée au zoo de la Londe. Voilà, donc 3 racailles volent des singes et on les condamne à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Donc, visiblement, il y a 18 mois fermes qui sont censés, en tout cas avant que le juge d'application des peines n'aménage tout ça, qui sont censés être faits. Premier procès du périscolaire parisien. 18 mois avec sursis, requis pour harcèlement prononcé sur 9 petites filles de 10 ans. 18 mois avec sursis pour harcèlement prononcé pour 9 petites filles à 10 ans, plus agression sexuelle sur 3 d'entre elles. Et deuxième procès, 12 mois sous bracelet, plus 24 mois avec sursis, requis pour agression sexuelle sur des petits-enfants de 3 à 5 ans. Alors, d'un côté, Gérald Darmanin instrumentalise la justice et s'abrite derrière ses circulaires et rejette la faute sur les juges, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un juge quand on lui dit qu'il y a des agressions sexuelles sur des enfants de 3 à 5 ans et que ça ne mérite que 12 mois avec bracelet et 24 mois avec sursis?
En fait,
et là aussi, où était la parole de Gérald Darmanin expliquant que la peine ne lui paraissait pas juste? Où était la parole du garde des Sceaux expliquant qu'il faut être ferme, évidemment, avec les délinquants sexuels? L'Observatoire de la justice a relevé d'autres décisions absolument aberrantes, et notamment des clients pédophiles de prostituées mineures, d'ailleurs, évidemment, prostituées mineures prétendument confiées par l'État à la garde de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, donc qui laisse se prostituer 15 à 20 000 gamins et gamines dans toute la France depuis des années. Scandale dénoncé depuis au moins l'année dernière. On n'a pas entendu Gérald Darmanin dire quoi que ce soit. On n'a pas entendu Emmanuel Macron dire quoi que ce soit. Eh bien, cette justice, malgré tout, d'une part, est inefficace et lente contre l'ASE. Et quant à un pédophile qui, une fois de plus, a consommé une mineure avérée et présentant tous les signes, si j'ose dire, de sa minorité, sans vouloir rentrer dans les détails, eh bien, le juge considère que ça vaut du sursis et non pas de la prison ferme.
Il y a un fait qu'on ressort très souvent. Alors, je crois que là, on ne l'a pas trop entendu dans l'affaire de la petite Liana. Mais quand c'est possible, on a toujours cette carte joker, si je puis dire, du trouble psychologique, du trouble psychiatrique. C'est un peu la carte facile, c'est la carte maîtresse. On va pas s'embêter avec ça. Bon, bah voilà, il était un peu instable, ça arrive. Non, en fait, quand on est instable psychiatriquement, on est donc reconnu médicalement fragile. Oui. En fait, on est en hôpital psychiatrique. Ça existe, c'est une réalité. Donc, que la justice arrête de nous sortir cet argumentaire permanent. Ensuite, vous donniez l'exemple là des trois racailles à Toulon avec l'affaire
des zoos et les singes.
Déjà, c'est aberrant. À quel moment on se dit qu'on va aller voler des singes? Mais tout ça pour dire que la justice ne manque pas toujours de moyens. Quand elle veut régler des choses facilement, elle le fait. Typiquement, donc, ces trois jeunes gens ont pris 3 ans pour les singes, ce qui me semble être normal. Enfin, on commet un délit, on est condamné, on est puni. Mais encore une fois, quand ça nous embête, quand ça cache quelque chose, on préfère mettre un peu la poussière sous le tapis et puis on verra bien. De toute manière, il y a une chose pour laquelle le gouvernement est très fort, c'est de demander pardon. Ils ont cette capacité faire un tweet, un communiqué officiel pour demander pardon à la famille, aux parents, à téléphoner. Ça, c'est la nouvelle, enfin pas la nouvelle lubie, mais ça fait des années que le président Macron fait ça, de prendre son téléphone et d'appeler la mère de la petite Lola, de demander aux parents de la petite Liana, pardon. Bref, c'est, voilà, je demande pardon. Mais on a vraiment l'impression, en face de nous, d'avoir un enfant qui ne se comporte pas autrement que « Maman m'avait dit de ne pas toucher au gâteau au chocolat qui était sur la table de la cuisine. J'ai touché au gâteau au chocolat qui était sur la table de la cuisine, j'ai désobéi à maman, je demande pardon à maman. » Ça, c'est une petite bêtise que ferait un enfant de 8 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus et il demande pardon, c'est très mignon. En face de nous, on a les dirigeants politiques de notre pays et nos enfants qui meurent. C'est ça la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui en France. Donc, cette justice qui, prétendument, n'a pas toujours les moyens, quand elle veut, elle peut les avoir. Mais encore une fois, elle se cache derrière des détails administratifs, elle se cache derrière un surmenage de dossiers, alors que les ministères sont quand même pleins hein, de personnes qui sont compétentes pour lire des dossiers, pour faire avancer les sujets, pour traiter les urgences. Mais encore une fois, on est en mesure de se demander où sont les urgences en France pour notre gouvernement.
Merci Marie-Charlotte Dubourblanc. Bonjour,
cher Richard. Bonjour.
Cher Lucien. Et nous allons pouvoir accueillir dans le Zoom notre premier invité, à qui je remercie d'avoir fait diligence et d'avoir bouleversé son emploi du temps pour compenser la manière dont moi-même est véritablement complètement bouleversé le schéma que j'avais proposé. Bonjour Xavier Mestre.
Bonjour, mille merci de me recevoir ce soir.
Alors, Xavier Mestre, vous êtes l'éditeur des éditions Mestre, voilà, M-E-Y-S-T-R-E, maison d'édition suisse, avec une politique éditoriale tout à fait intéressante, puisque vous rééditez énormément de textes, et même, si j'ose dire, vous êtes une maison qui surtout rééditait des textes avec... alors, excusez-moi, quelqu'un me dit de ne pas dire pédophilie, mais pédocriminalité. Voilà, bon, on va continuer. Et quelqu'un d'autre me dit que Darmanin ne démissionnera pas. Je suis bien d'accord avec lui. Vous avez décidé de rééditer des textes, comme par exemple le texte du révérend père Thomas Begg sur l'initiation au thomiste, mais aussi la défense de l'Occident d'Henri Massis, la douleur de Antoine Blanc de Saint-Bonnet, le manuel de politesse de Jules Rostin. D'où vient cet amour des vieux textes, pour le dire de cette manière-là?
Bon, tout d'abord, je crains que l'époque actuelle au niveau littéraire soit très pauvre, et donc il est important, je crois, d'aller chercher dans de vieux textes. Vous avez cité notamment l'initiation thomiste ou Henri Massis. Hein, ces deux textes ont été préfacés par des universitaires, en l'occurrence Michel Boyancé et Pierre Hillard. Pour justement peut-être mettre en perspective avec notre époque actuelle en quoi ces textes sont pertinents. Et en effet, la ligne, comme vous l'avez dit, est, je dirais, classique, catholique, en effet, et surtout sur une ligne intemporelle. Et d'une manière générale, moi, je refuse un petit peu de me plier un petit peu aux mots modernes. Je pense qu'il y a une intemporalité des problèmes et à la fois des solutions. Et donc, je pense que c'est ce qu'a très bien fait notamment Béraud, Bazin, Bourget et tant d'autres.
Alors, vous avez cité Béraud. Effectivement, on sent qu'il y a une veine catholique. Voilà, donc j'ai cité quelques titres, mais voilà, le révérend père Sertilange sur la vie intellectuelle, Léon Blois, exégèse des lieux communs. Voilà, donc c'est à la fois des textes très connus, des auteurs qui sont connus plutôt des spécialistes comme Sertilange, ou parfois des auteurs nettement moins connus. Voilà, René Bazin, évidemment, tout le monde connaît René Bazin, ou tout le monde connaissait René Bazin, évidemment.
Oh, je connaissais, oui.
Voilà. Mais aussi, il y a cette veine tout à fait intéressante. Voilà, vous publiez Henri Béraud, Ce que j'ai vu à Moscou, et surtout un gros volume qui va bientôt paraître, Souvenirs et récits autobiographiques, où vous reprenez plusieurs des livres qu'il a pu écrire, La Gerbe d'or, donc effectivement son récit d'enfance, Qu'as-tu fait ta jeunesse, et surtout les carnets de prison, 15 jours avec la mort, TF-677. Voilà, Henri Béraud, écrivain français, collaborateur, accusé de collaboration, interné, bon vivant, et énorme à tous les sens du terme, et qui se retrouve en tôle où il a maigri au physique comme au moral. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Henri Béraud?
Tout d'abord, j'ai découvert Béraud grâce au préfacier, donc Roland Thévenet, que je salue au passage, il y a environ 3 ans, je crois. Parce qu'en effet, je fais partie des générations qui a été complètement aussi brainwashée, endoctrinée avec la littérature, que ce soit au lycée et plus tard à l'université. Donc Henri Béraud fait partie de ces écrivains, de ces auteurs qui ont été victimes d'une omerta assez exceptionnelle, alors que pourtant il est quand même double prix Goncourt, ce qui n'est pas rien. Et donc, par la suite, en effet, il a collaboré, notamment à travers... Enfin, c'est un terme aussi, évidemment, complètement perverti, je pense, par l'époque. Hein, puisque, pour rappel, son ouvrage « Ce que j'ai vu à Berlin » a été interdit en Allemagne, notamment, parce qu'il était très critique de l'Allemagne nazie. Même chose dans son « Ce que j'ai vu à Moscou ». Lorsqu'il s'est rendu à Moscou, il n'avait pas du tout, en fait, l'idée de rapporter tout ce qu'il a rapporté. De cette manière, il a été très surpris de ce qu'il a vu. Donc voilà, et concernant ses souvenirs et ses récits, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement pertinent, d'extrêmement aussi actuel, de faire revivre ces maudits, parce que Béraud est un maudit, contrairement peut-être à Bourget, qui est plutôt lui complètement oublié volontairement, parce que certainement trop catholique pour la République. Mais Béraud, à travers ses récits, peut nous faire comprendre différentes choses. Je pense notamment à une chose en particulier. lorsqu'il est en prison, dans son 15 jours avec la mort, il entend dans les couloirs de prison Brasillach. Et Brasillach qui hurle dans les couloirs de la prison de Fresnes, et qui fait ses derniers adieux. Et Béraud, quelques pages avant, explique qu'il a reçu la visite d'un abbé, et que malheureusement, il n'arrivera pas à se convertir même en prison, et que lui-même n'arrivera pas non plus à convaincre le prêtre de l'athéisme. Et en fait, il entend les derniers cris de Brasillach, et la première chose qu'il fait, par réflexe aussi de son éducation catholique, c'est de se mettre à genoux dans son lit, la tête dans son lit, et de pleurer à 60 ans. Et c'est vrai que quand on met ça en perspective avec notre époque, qui est quand même une époque quand même de faible, hein, de mou au niveau politique, je pense en Suisse, en France, on a à peu près les mêmes profils, on se demande jusqu'où on est prêt pour aller au niveau de nos idées, n'est-ce pas ? Pas besoin d'être extrêmement sulfureux, mais de manière générale, de nos jours, on se contente de beaucoup de platitudes, je trouve. Et je pense que Béraud peut nous donner en tout cas un exemple de ce côté-là, de courage en tout cas.
Béraud, un exemple de courage. Vous avez signalé son catholicisme et c'est vrai que votre catalogue est, sinon exclusivement, du moins à très grande majorité, vous avez signalé le catholicisme de Paul Bourget, pas celui de Béraud, mais vous avez signalé qu'il était athée. Pourquoi ce goût pour la religion catholique, indépendamment de votre propre engagement ?
Bah, tout d'abord, moi je suis converti. Je suis converti depuis un an officiellement, donc 2025. Et pour moi, en tout cas, le plus grand malheur de notre époque, c'est l'apostasie. C'est la source de tous nos maux, c'est la cause de tous nos maux. Et je pense que c'est par ce prisme que l'on peut comprendre absolument tout. Et donc, pour y remédier, je pense qu'il faut revenir au principe. Et ce principe civilisateur, comme l'a dit Léon XIII notamment, c'est le catholicisme. Et donc... Notamment, j'ai réédité l'abbé Charles Grimaud avec son futur époux, future épouse, pour reformer des jeunes hommes, des jeunes femmes, au mariage catholique, notamment, et plus largement aux vertus chrétiennes. Et je crois que c'est ce qui manque cruellement à notre époque. Alors, les éditions Metz sont là pour y remédier, très modestement.
ça fait vraiment partie de ces livres où on se dit, la couverture est élégante, il y a un côté un tout petit peu NRF dans la couleur crème et les filets rouges, et on lit voilà, cet ouvrage distingué par l'Académie française, je parle de futures épouses de l'abbé Charles Grimaud, a été couronné par l'Académie française, prix Montyon 1923 et prix Fabien 1929. Voilà. Il aspire, cet ouvrage, à être un guide exhaustif pour la formation et l'épanouissement d'une femme complète, incarnant l'équilibre entre la beauté modeste et la force d'un cœur pur. C'est tout vous, Marie-Charlotte.
C'est absolument moi,
voilà.
Merci.
En fournissant des conseils précieux, il invite les femmes à préserver leur pureté, douceur et modestie dans un monde qui tente à vouloir détruire ses vertus. Et donc, il y a une inactualité totalement assumée des éditions Mestre. Et en même temps, cette inactualité totalement assumée, c'est parce que pour vous, justement, c'est avant 39-45, c'est avant les 30 Glorieuses qu'il faut aller chercher le suc qui permet de revivifier aujourd'hui le peuple français.
Mais là, c'est un manuel d'éducation de jeunes filles, là, d'internat anglais. C'est...
Je ne sais pas, c'est une question que vous posez à Xavier.
Non, mais ce que vous venez de lire, c'est vrai que...
Lucien Rabouille.
Il ne semble pas que Brasillach ou Henri Béraud soient forcément des modèles politiques. En tout cas, vu de France. Peut-être que vu de Suisse, vous voyez les choses différemment. Ils ont été, pour rappel, condamnés à l'indignité nationale. Et puis pour des faits objectifs de collaboration.
Béraud, non. Béraud, ce n'est pas vrai, ce que vous dites.
Pour Brasillach, en tout cas. Mais pour Henri Béraud, la question était aussi posée pour Henri Béraud que, condamné à mort. Le dossier qui avait été instruit et pour lequel il a été condamné, d'ailleurs, assez lourdement, je crois, était assez lourd.
Justement, navré de vous contredire, cher monsieur.
Je vous en prie, monsieur.
Au contraire, il était justement très faible et ils n'ont pas réussi vraiment à dire pourquoi il a été condamné à mort. On parle de collaboration avec l'ennemi, mais comme je vous l'ai dit, il était détesté par les Allemands et ses ouvrages étaient interdits en Allemagne. Donc ça aussi, c'était une épuration pure et simple. Et il a été notamment gracié par De Gaulle. Par l'entremise, maintenant, ça m'échappe, puisque nous sommes en direct, ça va me revenir.
Alors, moi, je
Francis Bergeron, pardon, c'est vrai.
Non, mais,
pour terminer sur Ribeiro, c'est Francis Bergeron nous a parlé d'Henri Béraud au micro de Radio Courtoisie dans une émission littéraire, a rappelé que ce n'était pas un écrivain négligeable et qu'il avait notamment fait de très belles évocations de la vieille France. Et,
effectivement, avec deux prix Goncourt obtenus à l'époque.
Et
oui,
par ailleurs,
on peut penser,
un remarquable journaliste politique qui avait fait le tour du monde plusieurs fois et qui a eu la chance de rencontrer des chefs d'État et qui avait une vision en matière de politique étrangère. Donc ce n'est pas forcément quelqu'un de négligeable, effectivement, tant sur le plan littéraire que sur le plan journalistique. Mais c'est-à-dire que Richard de Sèze, par rapport aux phrases qu'il citait, et peut-être d'ailleurs que ce n'est pas forcément représentatif de l'ouvrage qui est édité, évoquait quand même un ouvrage d'éducation de jeunes filles. Or, ce qu'on lit dans Notre avant-guerre de Brasillach, ou ce qu'on peut lire chez Henri Béraud, ce sont des choses quand même qui sont un peu plus élancées, vous voyez, ce sont des choses qui peuvent tirer l'âme de sa léthargie, c'est vrai, mais pas pour le faire replonger dans un conformisme d'avant-guerre ou un ouvrage appliqué de bonne manière.
Oui, en effet, mais j'essaie d'avoir une ligne plutôt hétérogène, mais qui reste quand même classique. En l'occurrence, les souvenirs et le récit autobiographique, ce n'est pas du tout ce qu'il a pu écrire dans Gringoire, par exemple. Ça n'a absolument rien à voir. Mmh. Et je rappelle que l'époque de Gringoire, c'est autre chose. On avait encore la possibilité, la liberté de parole et de presse, alors que maintenant, nous sommes de manière générale plutôt muselés. On discute, on dialogue toujours avec les bras liés, parce que l'on a peur de... qu'il y ait un procès ou que sais-je encore. Enfin, il n'y avait pas toutes ces lois complètement liberticides dans les années 30. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et un des meilleurs amis d'Henri Béraud, c'était Joseph Kessel, qui était juif. Mmh. Donc je crois qu'il faut aussi replacer ça dans son contexte historique et pas venir en 2026 dire Béraud-ci, Béraud-ça ou Brasillach. Je trouve que c'est... Peut-être que c'est très français parce que vous avez une histoire particulière, mais je trouve que c'est vraiment malvenu de manière générale de critiquer ces auteurs, et en qui plus est, qui ont été condamnés à mort. Ça, on ne peut pas le comprendre de nos jours, parce que nous sommes une période, comme je l'ai dit, de gens plutôt faibles, et être condamné à mort pour ces idées, pour nous, c'est inimaginable. Les gens se couchent très vite.
Ce qui vous mène, Xavier Maistre, dans ce choix d'auteurs, effectivement, qui peuvent être controversés, comme on dit à Libération, c'est aussi la découverte d'un patrimoine presque exclusivement français. Il y a au moins un auteur belge, enfin deux auteurs belges, puisque c'est eux qui signent le livre Suisse, Nation européenne, de René Carpentier et Jean Lannoy, avec d'ailleurs aussi comme préfacier Gonzague de Reynolds, qui revient de temps en temps dans votre catalogue. Mais ce sont surtout des auteurs français, alors que les éditions Metz sont des éditions suisses et que vous êtes suisse. Quel est ce rapport que vous entretenez avec la France, vous, Suisse?
Alors, il y a un autre auteur qui s'appelle Godefroy Courte, dans Les origines de la civilisation moderne, qui est aussi un historien et grand penseur belge.
Catholique, lui aussi, d'ailleurs.
Exactement, et cet ouvrage avait été salué notamment par Léon XIII. Et donc, pour revenir juste une petite parenthèse avant, la personne qui a gracié Béraud, c'est François Mauriac, et je vous prie de m'excuser pour cet oubli. Et ensuite, pour revenir à votre question, j'ai toujours été très tourné, en effet, vers la France. Je pense que c'est peut-être un de mes traits de caractère, et plus précisément ce qui peut-être aussi différencie la Suisse romande et la Suisse allemande. Les Suisses allemands sont très tournés vers l'Allemagne et les Suisses romands sont très tournés vers la France, que ce soit politiquement ou de manière générale. Et pour moi, la littérature ne devait pas faire exception à cela. Alors en effet, il y a aussi Gonzague de Reynolds, qui est le seul écrivain suisse pour l'instant. Peut-être que d'autres arriveront. Mais la réalité est qu'en effet, la France est une patrie littéraire immense et que la Suisse s'en est bien inspirée, même si elle a sa littérature romande avec certaines spécificités. Mais la réalité, c'est que voilà, le vivier, je dirais, vient de la France. En tout cas, tous ces grands écrivains, c'est indéniable. Donc, je suis obligé, si j'ose dire, au bout d'un moment, d'avoir quelques écrivains français dans mon catalogue, si ce n'est la majorité, parce qu'en Suisse, malheureusement, depuis peut-être 60 ans, le niveau intellectuel est en constant déclin. Alors certes, on a eu Blaise Cendrars, Charles-Ferdinand Ramu, Gustave Roux, évidemment, Denis de Rougemont, Gonzague de Reynolds, et d'autres. Mais la réalité, c'est que, voilà, là, j'en vous ai cité peut-être 5 ou 6. La France, c'est 500. Enfin, vous voyez, c'est pas la même chose.
Alors, votre chemin de conversion est peut-être très personnel, mais est-ce que cette réflexion, cette conversion, s'est faite aussi par la littérature ?
Pas vraiment. Pour être honnête, ça s'est fait, je dirais, assez naturellement, et plus particulièrement peut-être depuis le Covid-19, où il y a eu différentes réflexions qui se sont faites. Et ensuite, j'ai déménagé dans un canton catholique, parce que pour rappel, la Suisse a des cantons protestants aussi. Et donc, je pense que ça a aussi un petit peu accéléré ma réflexion. Et je crois aussi, où je me suis rendu compte, c'est qu'en effet, pour, si l'on veut vraiment retourner à cette civilisation que peut-être autour de ce plateau avons tant envie de retrouver, c'est vraiment retourner à son principe. Et le principe civilisateur de notre civilisation, c'est le catholicisme. Ce n'est pas autre chose. Et donc, on est bien obligé de passer par là. Et donc, évidemment, pour moi, ça a été une évidence de me convertir, et je ne le regrette pas un seul instant.
Alors, à propos de retour à notre civilisation, comme vous le dites, je voudrais revenir quelques instants sur le livre, enfin, les livres de l'abbé Grimaud donc, que vous rééditez, donc « Futurs époux et futures épouses ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Richard, sur le fait que c'était un peu un livre à contre-courant. Je pense au contraire qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on voit des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont cette volonté de vivre un mariage chrétien, de fonder un foyer sur la simplicité. On le voit de plus en plus, cette volonté de, alors par exemple, s'installer à la campagne. Je suis très présente sur... j'aime beaucoup suivre ce genre de cheminement sur les réseaux sociaux. Et vous connaissez peut-être cette tendance principalement américaine, mais de ce qu'on appelle les tradwives. Alors, c'est un peu... particulier, mais en France en tout cas, il y a beaucoup de jeunes couples qui s'installent dans des petites villes de province, qui s'installent à la campagne, qui ont cette volonté de vie simple, choisie. On cultive son potager, on élève nos enfants dans la simplicité, dans l'amour du beau. Je pense au contraire que ces livres qui ont pratiquement un siècle sont en fait complètement au goût du jour et reviennent avec une volonté de renouer avec ce qu'est notre civilisation et avec nos racines.
Je pense que c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire vraiment, ma ligne est vraiment, je dirais, une ligne intemporelle. Et en effet, comme vous le disiez à l'instant, l'abbé Charles Grimaud, qui a écrit cela il y a un siècle, ça n'a pas pris une ride, parce que justement, je pense qu'il y a une constance, une intemporalité des rapports entre les hommes et les femmes, de la manière dont on se forme et dont on approche, je dirais, l'abbé Charles Grimaud commence par exemple, je crois, dès la quinzaine pour la préparation à devenir un futur époux ou une future épouse. Mais en effet, il y a cette volonté de ma part de retourner à ce principe qui sont l'authentique homme, l'authentique femme. Et ce sont des choses qu'on a complètement oubliées. Si l'on regarde la société actuelle et la manière dont sont articulés les rapports entre les hommes et les femmes, c'est absolument déplorable. Il suffit de regarder 5 minutes d'actualité pour... on est en plein peut-être dans l'actualité avec les affaires Patrick Burel, etc. Mais de manière générale, on a une destruction des rapports entre les hommes et les femmes qui est absolument, absolument effrayante. Et je pense qu'il faut réparer ça, si j'ose dire, ou recréer de nouvelles familles, parce que nous en manquons aussi cruellement. C'est la réalité, non ? On déplore de cette manière la dénatalité et le déclin des Européens d'Europe, à juste titre. Mais je crois qu'il faut se donner les moyens aussi d'avoir des familles qui sont justement durables, qui s'inscrivent dans le temps, et où on n'est pas tout simplement à avoir juste des enfants. Mais non, on crée des familles et on s'inscrit le plus beau.
Je voudrais citer justement l'une des présentations que vous faites de l'abbé Grimaud. Redécouvrir ses livres, c'est retrouver une théologie incarnée, simple et lumineuse, celle d'un prêtre qui croyait à la grâce du foyer, à la fidélité dans la joie et à la grandeur d'aimer selon Dieu. Voilà, donc on est... je ne sais pas si Xavier Maistre est encore avec nous.
Je suis encore là, ça m'a noté à l'écran erreur serveur, mais je suis encore là. Vous ne me voyez plus, je ne sais pas pourquoi.
Mais... Je ne vous vois plus, mais je crois que vous êtes là parce que je vous entends, c'est assez efficace. Merci d'être avec nous, Xavier Maistre, et merci à Christophe Dickès qui vient de nous rejoindre. Donc on va pouvoir continuer à parler sans doute de catholicisme, mais aussi des éditions Maistre. Christophe Dickès, vous venez de publier un petit livre, petit par la taille, mais grand évidemment par le contenu, aux éditions... Salvator, le christianisme, une religion d'historien. Nous étions en train de parler avec Xavier Mestre d'un catalogue qui est le sien, celui de ses éditions.
Oui, j'ai entendu.
Avec des auteurs que vous avez forcément croisés, évidemment, Léon Bois et Paul Bourget, mais aussi Antoine Blain de Saint-Bonnet, le révérend père Thomas Pegg et le révérend père Sertillange, autrement dit, voilà, de grands auteurs catholiques que vous avez peut-être croisés dans vos études ou dans vos émissions.
Oui, alors en fait, tout d'abord bonjour et merci beaucoup Richard pour votre invitation. En fait, je rebondirai davantage sur Brasillach, parce que en fait j'ai passé, comme vous le savez, ma thèse de doctorat sur Jacques Bainville, et Brasillach est un auteur qu'on doit avoir lu si on veut comprendre bien évidemment l'entre-deux-guerres, et son livre Notre avant-guerre était voilà, quand j'étais étudiant il y a de 30 ans de cela, un livre qu'il fallait absolument lire et qui avait été édité, je me souviens très bien à l'époque, par le Livre de Poche, qui avait été réédité par le Livre de Poche il y a 30 ans, alors qu'aujourd'hui, voilà, trouver Notre avant-guerre chez un grand éditeur est devenu quasi impossible. Et je crois que vous aviez évoqué aussi La Défense de l'Occident tout à l'heure.
Oui, de Henri Massis.
Donc là aussi, qui est un classique et qui se pose, qui est un des fondements en fait de la fondation de ce qu'on appelle la Revue Universelle, qui était
la revue de Jacques Bainville.
De Jacques Bainville, avec comme directeur Massis, qui était un bimensuel, en fait, et qui était une revue intellectuelle, voilà, extrêmement importante de l'entre-deux-guerres, alors qui a disparu, comme beaucoup de revues, pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est absolument essentielle, puisqu'elle a accueilli énormément de grands auteurs de l'époque, et de tout bord, mais il y avait cette idée de défense de l'Occident qui était un des piliers de la revue.
Et d'ailleurs, la nouvelle Revue Universelle a pris la suite et existe, et voilà, dans une perspective d'ailleurs tout à fait bainvillienne. ça vous fait rire, Lucien?
Notre avant-guerre de Brasillach est un témoignage autrement plus suave et aventureux que ce que vous disiez sur l'expérience simple et la toute belle simplicité des choses simples et le train-train quotidien, des tradwives ou des gens en campagne. Tenir des deux bouts notre avant-guerre et les manuels d'éducation de jeunes filles, c'est assez...
Moi, je trouve au contraire qu'il y a quelque chose de très vrai dans le fait de ne pas chercher uniquement une espèce de vérité littéraire au goût délicieux, mais dont on prise l'étrangeté, et au contraire de se replonger aussi dans la manière d'être qui malgré tout a montré ses fruits, alors que ce que les boomers nous ont apporté en matière de libération sexuelle...
Notre avant-guerre ne parlait pas de ça. Notre avant-guerre parlait plutôt d'une forme de libération sexuelle.
Oui, justement. Oui, bien sûr. Mais voilà, mais à côté de ça, pour ma part, je retiens plus les poèmes de Fresne qui me paraissent je veux dire, être le véritable Brasillach plutôt que son côté un peu dandy voilà, de notre avant-guerre. Nous avons le plaisir d'accueillir à présent Mathieu Lavagna, et donc je tiens à redire à tous les auditeurs de Radio Courtoisie ma confusion, qui sera courte, comme à peu près tous les aveux des péchés que j'ai pu faire, de m'être trompé dans les horaires et d'inviter en même temps tout le monde à 18h30 et ensuite d'appeler en catastrophe tous les auteurs leur demandant d'arriver plus tôt. Donc ils l'ont tous fait, ils sont tous là maintenant, et donc ce qui fait qu'on va passer 1h15 ensemble à parler surtout de catholicisme. Donc Xavier Mestre, parce qu'il possède des éditions dont la tonalité catholique est évidente. Christophe Dickès, à cause de ce livre, Le christianisme, une religion d'historien, et vous, Mathieu Lavagna, à cause aussi du petit livre que vous avez fait paraître, Les évangiles disent-ils vrai, aux éditions Artege, qui est un ouvrage d'historien. Xavier Mestre, évidemment, sentez-vous libre d'intervenir et de poser toutes les questions que vous voulez à Christophe Dickès et à Mathieu Lavagna sur justement l'histoire et donc leur rapport à l'histoire, puisque vous-même, à travers l'ensemble de ces rééditions, on sent que c'est ce temps long aussi qui vous intéresse. Mathieu Lavagna, dans les évangiles disent-ils vrai, vous posez en fait en couverture la question de savoir si on nous raconte des histoires, si ces histoires sont crédibles et dans quelle mesure ceux qui nous les ont racontées existent vraiment, si les évangiles ont été rédigés pendant que Jésus était en train de parler ou 350 ans après. Et en fait, c'est toute une série de questions qui sont à la fois légitimes pour un croyant et qui contribuent aussi à nourrir un discours anti-chrétien, puisque l'historicité des évangiles est une des pierres d'achoppement. Si je considère que les évangiles ont été écrits en 150, en 200, en 250, autrement dit un siècle ou deux après la mort de Jésus-Christ, je suggère que je raconte à peu près ce que j'ai envie de raconter. Et une des thèses, y compris dans les universités catholiques, a été à un moment donné d'expliquer que les communautés de croyants du christianisme des origines avaient peu à peu forgé les récits qui convenaient à cette église naissante. Vous, au contraire, vous nous dites, même pas vrai, en fait, les évangiles, c'est du béton, et vous le prouvez par une multiplicité d'arguments qui sont très intéressants. Alors, par exemple, le premier d'entre eux, c'est le fait qu'il y a 24 000 manuscrits des évangiles, autrement dit que voilà, on est un peu blindé en matière de sources, 5 800 en grec, 4 000 en slave, 10 000 en latin, 2 000 en armédien, 350 en syriaque, et donc qu'on est absolument surchargé de manuscrits sur cette histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, là où au contraire il y a d'autres pans de la littérature ou d'autres études historiques, d'autres événements historiques qui sont couverts d'une manière très minime avec très peu de sources.
Oui, en effet, déjà, je pense que la question de l'historicité des évangiles et de l'accès aux sources est fondamentale pour nous, les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'objections sur Internet ou dans notre entourage qui vont nous dire « Oui, mais les évangiles, c'est un tissu de légende, ça a été écrit très tardivement après les faits, on ne peut pas leur faire confiance. » Ou encore, comme disent certains musulmans, « Les évangiles ont été falsifiés, on ne peut pas avoir accès au texte original. » Et en fait, les recherches, la critique textuelle moderne est capable de répondre aujourd'hui à ces accusations, et ces accusations de falsification, ces accusations de datation très tardive, ou d'autres domaines qui concernent les critères historiographiques. Et donc, c'est important que le grand public soit au courant de ce genre d'avancée universitaire. Et donc, le but de ce livre, c'est, je ne suis pas un historien moi-même, mais j'ai lu quand même pas mal de travaux d'historiens qui ont écrit sur le sujet, et qui nous donne voilà, des arguments pour argumenter en faveur de la fiabilité des évangiles. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai une première partie sur l'attestation manuscrite, à la fois quantitative et qualitative. Est-ce qu'on est capable de reconstruire le texte original du Nouveau Testament? C'est une première question qui se pose. Alors évidemment, on n'a pas accès aux manuscrits originaux du Nouveau Testament, mais ça, c'est le cas pour tous les autres textes de l'Antiquité. On n'a pas accès à l'original de Tacite, de Flavius Joseph, dans les Antiquités juives, on n'a accès à aucun texte original de l'Antiquité. Mais on a accès à suffisamment de manuscrits, de copies de manuscrits, qu'on est capable de les comparer entre elles et de reconstruire le texte original. Et donc aujourd'hui, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, bah c'est bien ce qu'avait écrit l'apôtre Matthieu au 1er siècle. On est capable d'en être certain. Et après, d'autres questions se posent. La question de la datation, est-ce que c'est une datation primitive des évangiles? Est-ce qu'on peut dater les évangiles? Et si oui, avec quelle fourchette d'intervalle? Qui les a écrits? C'est important de savoir si un texte est fiable, qui en est les auteurs? Est-ce que c'est des auteurs anonymes, des communautés à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle? Ou est-ce que ça remonte aux apôtres ou à des gens qui ont personnellement connu les apôtres? Voilà, donc il y a plein
de questions
que je développe dans le livre pour l'attribution traditionnelle.
Bah, on y reviendra. Christophe Dickès, tout de suite, ce qui est intéressant dans votre livre, enfin tout est intéressant bien sûr, le christianisme, une religion d'historien, c'est que ces débats sur l'historicité des évangiles, ces débats sur quelle est la vérité des évangiles, on se les pose très tôt. Là, vous nous parlez de Pierre le Mangeur entre 1100 et 1179. Est l'un des premiers à accorder une importance majeure à l'analyse littéraire et historique des textes bibliques, cherchant à restituer la chronologie des événements et à relier l'histoire biblique à celle de l'humanité entière. Donc en fait, il y a une mise en contexte historique. C'est quelque chose dont on pourrait croire que c'est né au 19e, au 20e. Pas du tout, en fait. Dès le 12e siècle, dans la chrétienté médiévale, on trouve des penseurs qui ont une attitude d'historien au sens le plus scientifique du terme vis-à-vis de l'Écriture sainte.
Alors effectivement, le texte que j'ai écrit, c'est un texte d'abord qui porte il y a une raison à ce titre, le christianisme, une religion d'historien. Je vais revenir sur Pierre le Mangeur, mais peut-être rebondir sur ce que vient dire Mathieu Lavagna. Le terme du christianisme, christianiste religion de l'historien n'est pas du tout de moi. Non, elle est de Marc Bloch. Voilà. Elle est de Marc Bloch, et Marc Bloch a des mots quand même voilà, très, très forts. Le christianisme est une religion d'historien. D'autres systèmes religieux ont pu fonder leurs croyances et leurs rites sur une mythologie à peu près extérieure au temps humain. Pour livres sacrés, les chrétiens ont des livres d'histoire. Et donc, Marc Bloch, qui était agnostique, Marc Bloch, qui était juif, eh bien, estimait le christianisme dans sa valeur historique. Et j'y vois vraiment voilà, un symbole extrêmement important en cette époque où, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, certains remettent en cause. Moi, je suis absolument fasciné de voir que des gens qui sont, voilà, qui ont quand même un bagage intellectuel remettent en cause l'historicité des évangiles. Et finalement, le premier réflexe, deux points, le premier réflexe des pères de l'Église, en fait, ça a été de distinguer le vrai du faux, ou bien le vrai du pas sûr. C'est la distinction du Nouveau Testament avec ce qu'on a appelé les textes apocryphes. Les textes voilà, du Nouveau Testament sont dits texte canonique reconnu par l'Église, tandis que les textes apocryphes, on ne les juge pas assez sûrs. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout rejeter dans les textes apocryphes, mais qu'on doit les prendre avec des pincettes. Alors évidemment, quand Simon le magicien se bat avec Saint Pierre dans les textes apocryphes, monte dans le ciel, et puis tel Dark Vador ou bien l'empereur dans Le Retour du Jedi lance des lasers, eh bien on peut remettre en cause la chose. En revanche, par exemple, le fait que Saint-Pierre ait été crucifié à la tête en bas est une forme de tradition qui est restée à Rome très, très ancrée. Et donc, le fait que l'Église, que les hommes d'Église aient voulu quasi immédiatement distinguer le vrai du faux, du très fiable, du moins fiable, eh bien, révèle pour moi une démarche d'historien. Et le premier des historiens, c'est Luc, en fait. C'est le plus historien des évangélistes. Vous savez, Luc commence avec un prologue, et ce prologue est une tradition littéraire propre aux historiens de l'Antiquité. Et dans ce prologue, il parle en grec d'acribeia. L'acribeia, c'est l'exactitude, c'est la précision dans la recherche. Il parle d'asphaléia, c'est la solidité, la fiabilité des informations transmises. Voilà, il parle de témoins oculaires comme garant de la vérité, et c'est une méthode chère, par exemple, à un Thucydide. Donc, vous voyez, il y a une démarche d'historien qui est propre à Saint-Luc et qu'on remarque. Vous savez, j'avais un professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne qui s'appelle Bertrand Schnerb, et Bertrand Schnerb s'adressait de la façon suivante aux étudiants en TD d'histoire médiévale de la Sorbonne: ceux qui remettent en cause l'existence de Jésus, eh bien, peuvent sortir du cours, parce que c'est pas la peine de faire de l'histoire. Voilà. Il y a la temporalité que vous évoquiez tout à l'heure est une temporalité en fait extrêmement courte entre l'événement et les premiers textes que nous avons. Je vais vous donner un exemple tout simple: la guerre des Gaules. Le premier texte de la guerre des Gaules que nous avons date du 9e siècle, je crois. Et donc, personne ne va remettre en cause la guerre des Gaules.
Un des exemples que donne Mathieu Lavagna dans son essai « Les évangiles disent-ils vrai ?»
Alors, vous allez me dire, bien évidemment, on a des preuves, on a des preuves par ailleurs, mais n'en déplaise à Michel Onfray, on a aussi des preuves archéologiques à côté de ces preuves textuelles, que ce soit dans le Nouveau Testament ou bien que ce soit dans les sources profanes. Et aujourd'hui, il ne reviendrait absolument pas à l'idée d'un historien spécialiste de l'Antiquité de ne pas prendre les évangiles comme des sources, parce que les évangiles sont là pour nous éclairer sur la façon dont travaillait le Sanhédrin, la façon dont travaillait Ponce Pilate, sur l'époque aussi. J'ai écrit un Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. Dans tout le premier chapitre de mon livre sur Saint-Pierre, je décèle en fait ce que signifie la vie d'un pécheur au premier siècle. Et en fait, il y a des petits détails qu'on n'entend pas forcément quand on écoute les évangiles à la messe, mais qui sont très révélateurs. On vous donne des techniques de pêche, par exemple, les quatre grandes techniques de pêche. Et donc ça, c'est, si vous voulez, c'est une incarnation, et cette incarnation révèle cette réalité historique.
Et bien, vous dites, Lucien Rabouille, vous dites, Mathieu Lavagna, justement, que cette surabondance de détails, en fait, fait des évangiles une œuvre assez exceptionnelle au moment où ils paraissent, puisque Aucune œuvre littéraire ne descend dans ce genre de détails. Aucune œuvre littéraire, comme le signalent quelques critiques, n'est aussi mal écrite. Aucune œuvre littéraire ne se perd dans des précisions géographiques et historiques un peu oiseuses, précisant qui est Ponce Pilate.
Ils sortent au moment où Ponce Pilate, il y a des redondances qui sont extrêmement lourdes et qui ne peuvent pas être celles d'une composition artistique, ne serait-ce que par l'absence de qualité littéraire. Est-ce que la présence du surnaturel, justement, dans les évangiles, ne le distingue pas d'autres textes historiques de l'Antiquité ?
Alors, oui, mais si, c'est ce que je réponds, si vous voulez, aux agnostiques ou bien aux athées. C'est que vous pouvez très bien croire les évangiles, le récit évangélique, et ne pas avoir la foi. Vous pouvez faire la distinction. La foi catholique est fondée sur quoi ? Elle est fondée sur la résurrection. Voilà, un homme comme Marc Bloch ne croyait pas au miracle. Les rois thaumaturges, une de ses œuvres majeures, estime que la guérison des écrouelles par les rois était une sorte de fake news, mais une rumeur répandue dans toute la France. Bon, Bloch estimait que les miracles, il ne croyait pas aux miracles des évangiles. En revanche, il faisait la distinction entre ce qui relevait de la transcendance, de la croyance, de ce qui relevait de l'histoire. Encore une fois, vous pouvez très bien croire aux évangiles sans croire à la transcendance et sans croire aux miracles qui sont présentés. C'est une question, ça relève de la foi, ça relève de l'intime, ça relève de la croyance. Voilà, il n'empêche un homme nommé Jésus a joué un rôle dans le premier tiers du premier siècle, et ce rôle a été commenté notamment par des hommes comme Tacite, comme des hommes comme Flavius Joseph, et remettre en cause cette réalité historique, les bras m'en tombent parce que c'est une réalité.
Le titre effectivement interroge le christianisme, une religion d'historien. Un certain Jean Calvin nous expliquait que, par exemple, nous n'avions pas forcément besoin de l'Église, puisque nous avions le livre et nous avions ce texte. Et ce préjugé a ensuite été invoqué pour congédier tout ce qui appartenait à la tradition orale de l'Église. Est-ce que, en écrivant le livre « Le christianisme, une religion d'historien », vous n'avez pas voulu mettre au pilori une hérésie qui, par exemple, fait du christianisme une religion non pas d'historien, mais une religion du livre, uniquement du livre ?
Alors, c'est une question extrêmement difficile que vous me posez. Par ce livre, si vous voulez, la naissance de ce livre, c'est une interrogation. À quoi sert l'histoire ? À quoi sert l'histoire ? Est-ce qu'elle éclaire la philosophie ? Est-ce qu'elle éclaire la théologie ? Est-ce que l'histoire éclaire le droit canonique ? C'est le doyen Danto de l'école de droit canon qui m'a demandé d'intervenir en fait en début d'année 2025 pour les vœux, afin de faire une conférence sur ce thème, à quoi sert l'histoire ? Et donc je suis parti de cette réflexion de Marc Bloch, le christianisme, une religion d'historien. Et donc j'ai montré comment l'histoire du christianisme, le christianisme est intimement lié à la recherche historique, à la volonté de rechercher la vérité historique. Et cette quête de vérité, on la trouve autant, en fait, contrairement à l'idée que l'on peut en avoir chez des hagiographes, puisque les hagiographes travaillent sur la vie des saints, sont au service de la théologie et souhaitent, au nom de Dieu, rechercher la vérité. Parce que s'ils ne donnent pas la vérité, ils savent qu'ils seront jugés pour avoir menti. Et même les hagiographes, aujourd'hui, sont, dans les recherches historiques, réhabilités. J'en veux pour preuve, notamment, les travaux de l'excellente historienne Marie-Céline Isaïa, qui, dans son livre Une autre histoire, a décortiqué des centaines d'hagiographies. Et dans ces centaines d'hagiographies du 4e au 9e siècle, elle montre cette quête de vérité de la part de ces hagiographes. Et donc, je vois dans le christianisme, et c'est ce que disait, en fait, je tente de tirer le fil de cette phrase de Bloch, en montrant la réalité historique les liens du christianisme avec l'histoire. Ceci jusqu'à Dom Mabillon qui au XVIIe siècle établit la critique historique moderne. Bloch disait que le livre de Dom Mabillon, le Re Diplomatica, qui fonde la critique des textuels, le Re Diplomatica constitue une des plus grandes dates de de l'histoire de l'intelligence humaine.
Alors pour, juste pour prouver que je vous ai lu, ouais. Le Re Diplomatica fonde la diplomatie qui étudie la valeur, la tradition et l'authenticité des documents. Il fonde aussi la paléographie qui étudie les écritures manuscrites anciennes. Autrement dit, il crée la science historique moderne et contemporaine, cette science définissant les règles afin d'établir la véracité d'un document. Voilà, et là, on est en train de parler de Mabillon.
Mais pour, je voudrais répondre parce
mais rapidement, parce qu'il y a une question pour Xavier Mestre.
Justement, je vous en prie.
Oui, oui, simplement en deux mots. Oui, vous avez raison, c'est que je pense qu'il est important. Vous savez, on dit toujours que la recherche historique des catholiques, des historiens catholiques, notamment de la fin du 19e et du début du 20e siècle, est une réponse au protestantisme. Mais en fait, c'est absolument faux. C'est-à-dire que quand on voit Pierre Le Mangeur que vous citiez, qui est l'historien par excellence, quand on voit Guyard de Worms, qui a vécu au XIIIe siècle, ce sont des personnages en fait qui exercent une critique textuelle et qui travaillent sur le texte. Ce n'est que plus tard, à l'époque de la Renaissance et à l'époque moderne, que l'Église va un peu se renfermer sur elle-même à cause du protestantisme en disant qu'il ne faut pas y avoir de traduction, qu'il faut se méfier du vernaculaire, etc. Le Moyen-Âge est une période beaucoup plus ouverte sur le plan intellectuel qu'on ne le croit. On parle d'un Moyen-Âge antisémite, mais un homme comme Pierre Le Mangeur, qui est de Troyes, travaille avec l'école judaïque de Troyes afin de mieux comprendre l'Ancien Testament pour mieux éclairer le Nouveau Testament. Vous savez, il y a une représentation, mais sur les cathédrales, je reviens de Cluny, à Cluny vous avez une partie gothique, et dans cette partie gothique vous avez des statues. Et sur ces statues, vous avez en fait des prophètes de l'Ancien Testament. Et les prophètes viennent appuyer les statues des apôtres. L'Ancien Testament est intimement lié au Nouveau Testament. Donc on voit un Moyen-Âge antisémite, mais pas du tout. On voit un Moyen-Âge qui refuse l'Ancien Testament, mais pas du tout. En fait, c'est cette phrase de Bernard de Chartres au XIIe siècle, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Et c'est exactement ça. Et donc le Moyen-Âge est un Moyen-Âge qui, les penseurs du Moyen-Âge, les intellectuels du Moyen-Âge sont des hommes qui se penchent vers l'Ancien Testament et qui font une critique historique.
Richard de Sèze nous permettra-t-il d'approfondir juste un instant
non,
ce
moi
point
d'abord. Non. Voilà. Non, parce que j'ai une question pour Xavier Mestre. Alors déjà, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à se rendre sur le site internet des éditions Mestre pour voir le catalogue qui est présenté. Xavier Mestre, est-ce que vous pouvez déjà nous parler, peut-être, des prochaines parutions à venir? Jusqu'à présent, on a principalement évoqué des auteurs du 19e et 20e siècle, mais est-ce que des auteurs du Moyen-Âge pourraient figurer dans votre catalogue ?